Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs les élus, sénateurs, en tout cas les sénatrices que j'ai vu aussi beaucoup de personnalités. J'ai reconnu Marc Dufunier qui doit être là, bien sage au milieu, voilà. J'ai vu aussi, oui, le collègue belge qui est là-bas, hein, qui était au colloque qu'on avait organisé le 18 décembre sur l'agroécologie. Je salue un collègue du gouvernement, Pascal Canfin, avec lequel j'aurai l'occasion d'y revenir. On a quelques projets et quelques ambitions sur cette grande question à l'échelle de la planète, mais en tout cas du développement tel qu'on le concevra et tel qu'il s'est engagé à le mettre en œuvre. Et puis bien sûr, Monsieur De Schutter, que j'ai connu à un moment, et quand j'étais parlementaire européen, j'avais suivi les deux rapports qu'il avait fait en tant que rapporteur spécial, et en particulier un sur la question de l'agroécologie, sujet qui déjà à l'époque était considéré comme un élément de réponse. Après aussi, ce qui avait été fait au niveau de la FAO sur le Millennium Assessment sur les questions d'écosystème, la réponse aux défis alimentaires en même temps qu'on a à répondre aux défis environnementaux, puisque c'est quand même ça la question qui nous est posée de manière globale. Ces deux enjeux, avec une question qui surplombe aussi ces éléments, c'est dans ce processus de réchauffement climatique, quelle va être la manière dont on va gérer les ressources qui sont nécessaires à l'agriculture. Je pense au sol, et je pense aussi à l'eau, bien sûr. Donc on est dans un contexte et un moment avec de très fortes contraintes, en fait. C'est ça qui nécessite que la réflexion soit poussée le plus loin possible. Ces contraintes que j'ai évoquées, les ressources naturelles qui, compte tenu de l'augmentation de la population dans le monde, compte tenu des besoins qui s'expriment, eh bien, sont de plus en plus tendues dans leur gestion. Il y a le réchauffement climatique avec ses conséquences sur une partie de la désertification d'un certain nombre de régions et d'appauvrissement des sols. On parle souvent de l'Afrique, mais aujourd'hui en Europe, il y a aussi des phénomènes d'appauvrissement des sols qui sont extrêmement inquiétants. 25% des sols européens se sont dégradés dans les 15 dernières années. Contraintes liées au coût de l'énergie fossile de manière globale, contraintes liées au modèle tel qu'ils avaient été conçus, en particulier de cette fameuse révolution verte, fut un temps, très grosse consommatrice de produits à la fois issus du pétrole et issus de la chimie, et qui trouve ses limites, elles, dans les externalités négatives qui ont pu être constatées partout sur une utilisation qui, quelquefois, a conduit à des catastrophes. Je pense au chlordécone en Martinique et en Guadeloupe aujourd'hui, qui fait que des sols sont condamnés pour 100 à 200 ans aujourd'hui, ce qui est quand même un constat affligeant qu'on est obligé de faire, et ce qui nous impose de réfléchir au changement, j'allais dire, oui. En tout cas, un changement de manière de concevoir la production et sa durabilité. Alors, à partir de là, il y a plusieurs pistes qui étaient ouvertes, et le choix doit se faire en ayant en tête, je le disais, les contraintes que j'évoquais tout à l'heure, mais en même temps, les besoins. On est 7 milliards, on sera 9 milliards. Je ne suis pas de ceux qui considèrent qu'il y a une règle arithmétique à mettre en place qui consiste à dire avec tant de production aujourd'hui, avec 7 milliards d'habitants, si on veut aller à 9 milliards, ben, il faut la multiplier par 2, par 3. Je pense que derrière tout ça, il y aura aussi des profondes évolutions dans les modèles de consommation alimentaire. Que ça, on ne le maîtrise pas aujourd'hui. Que c'est aussi important d'ailleurs, réfléchir que la question de la production elle-même, la question des modèles alimentaires, je le répète, c'est un vrai sujet. Et je ne suis pas partisan de ceux qui disent « arrêtons de manger de la viande, comme ça on va régler le problème et du réchauffement climatique et de la production végétale ». Alors là, ça fait longtemps, et quand McCarthy était venu au Parlement européen parler d'interdit une journée par an, je vous le rappelle d'ailleurs au passage, hein, les derniers interdits alimentaires ont toujours été des interdits religieux. Mais je pense que là-dessus, ça mérite quand même une réflexion. Mais je pense que les modèles alimentaires, on va être obligé d'y réfléchir. Les structurer, mais en même temps, avec des objectifs qualitatifs, quantitatifs, de lien avec la santé, et qu'entre ce qui nous est dit aujourd'hui, il y a tant de production, il y aura tant de demain, et donc il faut qu'on fasse l'adéquation, il va se passer des choses. Et je crois que dans ce domaine, la culture alimentaire, les cultures alimentaires, ça va être aussi un enjeu important de discussion, et en tout cas de capacité qu'on aura à adapter la production agricole et alimentaire aux besoins alimentaire du monde. Donc ça, c'est le premier point. Donc j'ai pas du tout de j'accepte pas cette idée que plus d'hommes, plus de production. D'autant que, et ça c'est le travail que nous sommes en train de mener avec Pascal Canfin, d'autant que dans près des deux tiers des pays producteurs en agriculture aujourd'hui, on perd 30% de ce qui est produit. Nous, on en gaspille 30% à la consommation, et dans les pays en voie de développement aujourd'hui, ou même développés pour certains, on perd 30% à la production. Il faut déjà commencer par éviter de perdre ce qui est produit. Et quand ça atteint des niveaux, comme je le disais, de 30%, c'est quand même un enjeu aussi. D'où le travail qu'on va conduire au niveau de l'Afrique et de la CEDEAO en particulier, je l'avais commencé au niveau de la FAO, sur la capacité qu'on a à améliorer les conditions de stockage, voire de transformation, de première transformation de la production agricole, pour éviter de la perdre. Premier principe. Avant de se poser la question de savoir si on augmente, évitons de perdre. Et ça, c'est un axe aussi important, qui nécessite aussi, pour un certain nombre d'entre nous, d'accepter l'idée que la production agricole, ça ne peut pas être uniquement une question de production vivrière. Quand je produis, il faut qu'il y ait un acte de transformation. Et ça, conceptuellement, quelquefois, il faut quand même qu'on arrive à évoluer là-dessus. Des mangues, vaut mieux les sécher pour les conserver. Et ça fait des fours, des coopératives qui se créent, qui transforment. Et une fois qu'elles sont séchées, elles peuvent être transportées. C'est quand même un enjeu aussi. Et là-dessus, moi, je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion. Et puis, il y a la question de la production, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et là, il y a plusieurs pistes, il y a des débats qui ont eu lieu avec l'agriculture biologique et une voie qui consiste à se dire que l'agriculture biologique a dans ses fondements, dans la base qui a été à l'origine de ce développement de cette agriculture, mis une idée assez simple qui consistait à dire que plutôt que de sélectionner quelques espèces ou variétés les plus productives, de faire en sorte que j'élimine autour tout ce qui pouvait les concurrencer, et que j'utilise pour ça beaucoup de chimie, que je mette beaucoup de travail et beaucoup d'énergie, eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer par regarder ce que nous permet de faire la nature, tout simplement? L'enjeu qu'il y a derrière tout ça, et c'est le concept de l'agroécologie, ça consiste à se dire que plutôt de venir constamment par un recours à des produits qui sont des produits hors processus naturel. L'agroécologie et la conception que j'en ai, ça va être d'essayer d'utiliser au mieux la connaissance que nous avons des processus naturels pour les mettre au service de la production agricole. C'est ça le principe. Et c'est ça la mutation. Et c'est ce qui fait, par exemple, par rapport à la grande question qui a agité beaucoup et qui agite toujours, les OGM. Pourquoi les OGM, c'est pas ce principe-là, c'est tout le contraire. Celles qui sont proposées par Monsanto, on en discutait tout de suite, ou par d'autres. Ça consiste à dire, on sélectionne une variété, toujours, on fait de la monoculture, mais on vous permet, par la sélection génétique qu'on a faite, de considérer qu'elle sera toute seule et qu'il n'y aura plus rien qui l'aura la concurrencée. C'est l'envers du décor. C'est exactement le contraire qu'il faut faire. Et dans les propositions qui avaient été faites, que vous aviez faites, sur cette question de l'agroécologie, c'est exactement ça. Elles succédaient à l'idée de la biodiversité, comme on utilise, au contraire, la concurrence que la nature organise elle-même pour la mettre à notre propre profit. Ça veut dire que, derrière les modèles de production, il y a une conception et une science qu'il va falloir réinventer. On parlait d'agronomie, bien sûr, qu'il va falloir y revenir. Mais qu'est-ce qui va faire que demain, cette agroécologie pourra être aussi compétitive? Je le dis au sens où elle permet d'atteindre des niveaux de production avec des coûts de production qui qui soit plus faible. C'est ça, sa compétitivité. Eh bien, elle le permettra parce qu'on aura été capable de réfléchir sur le fait que la connaissance ou l'intensification de la connaissance des mécanismes naturels nous permettent de faire des économies en termes de coûts de production. C'est ça l'enjeu. Et le jour où les agriculteurs, et en France en particulier, auront intégré le fait que dans ce processus, il y a derrière une dimension économique tout à fait positive, eh bien je suis sûr que ce processus engagera une véritable dynamique. C'est tout le débat qu'on a lancé le 18 décembre, c'était évoqué par Joël tout à l'heure, sur l'agroécologie et le projet qui est disponible et qui sera disponible à la sortie avec le petit document, sur cette question et cette conception et les enjeux qu'il y a derrière, à la fois dans la définition conceptuelle. Et l'INRA organisera au mois de septembre un grand colloque justement sur ce domaine conceptuel. Parce que je pense que pour avancer, il faut aussi que derrière, on réfléchisse à ce que l'on imagine comme structuration intellectuelle et scientifique. Et avec une idée très simple aussi, c'est que pour la première fois, comme le dit souvent Griffon, ça m'a toujours frappé, on est aussi dans un processus implicatif. Il n'est pas simplement participatif, il est implicatif. Dans le sens où les agriculteurs eux-mêmes ont été des précurseurs. C'est ce qu'on appelle des modèles pionniers. L'agriculture biologique en a été un. Elle n'a pas été cherchée ni demandée à des scientifiques. Ils sont venus après. Et là, on a des pionniers aussi qui ont anticipé ces évolutions sur lesquelles on va s'appuyer. Donc il y a bien une implication à la fois des agriculteurs aujourd'hui et il faut qu'on implique la science. C'est ce processus implicatif qui m'intéresse. Et c'est pour ça que ça prendra un peu de temps. Et qu'il faut être capable aussi d'ouvrir les possibles pour pouvoir ensuite resserrer le processus et l'amener là où on veut. L'enjeu étant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que disait Joël, c'est simplement de combiner la performance écologique, dans le sens où il y a une mutation qui s'opère et qu'il va falloir l'accompagner et la structurer, avec l'enjeu des attentes de nos sociétés développées, et qui sont nombreuses, quelquefois contradictoires, mais auxquelles on doit apporter une réponse. C'est ça le principe, c'est ça le débat qui s'engage. Et c'est très important que, je voudrais dire à Joël Labbé d'organiser ces colloques autour de ce concept, parce que c'est dans un processus, j'allais dire implicatif encore une fois, qu'on va créer nous-mêmes les conditions de la mise en œuvre. Sans désigner, parce que ça a été aussi trop longtemps un système, qui a consisté à penser l'avenir avec d'abord comme principe de contredire le passé. Ça sert d'évoluer et de regarder ce qui s'est passé pour pouvoir évoluer. Mais ça ne peut pas servir de viatique à long et moyen terme. Il faut qu'on soit capable de créer ce qu'il y a de nouveau, de mettre en œuvre ce qui est nouveau, de créer les conditions de la réussite d'un concept comme l'agroécologie. De cette double performance que j'évoque souvent, économique et écologique. Parce que la question économique, de toute façon, elle sera posée. Elle nous rattrapera si nous ne sommes pas capables de l'intégrer. Et c'est ça aussi la dimension nouvelle qu'on doit tous avoir en tête. Et quand on est ministre, on a toujours l'impression qu'on est décalé ou qu'on ne va pas assez loin. Et parce qu'il y a des réalités sur lesquelles on s'appuie. Et qu'on ne peut pas les changer comme ça d'un seul coup. Mais qu'en même temps, on a une volonté qu'on doit exprimer et qu'on doit mettre en œuvre. C'est cette idée, je vous le disais, de l'implication de tous qui sera nécessaire pour la réussite d'un grand projet. Et moi, je veux que la France, là je le dis, même si il y a l'Europe, bien sûr, la France, mais on a, nous, une responsabilité dans ce domaine. La France étant un grand pays agricole à l'échelle européenne, ayant été longtemps leader dans ce domaine, on doit reprendre une mission, un leadership, et dans ce domaine, je pense que nous avons des capacités à faire valoir. D'abord parce que la diversité de nos agricultures, elle est là. Les expériences des pionniers, elles sont là. Si je prends d'ailleurs l'agriculture biologique, c'est né en France. Alors après, ça s'est diffusé. D'ailleurs, on a pris du retard. Et on a essayé de le rattraper intelligemment. Là encore, pas faire non plus copier les autres. Mais sur cette question, on doit être moteur. Et je vous le dis, j'ai beaucoup eu de contacts avec d'autres pays européens, mais aussi beaucoup de contacts avec des collègues de la Méditerranée. L'idée que, pour certains, ils sauteraient une étape avec un slogan qui m'a été donné par le ministre algérien en disant, en gros, faisons de notre tare un atout, c'est-à-dire l'atout, c'est passer d'un modèle agricole tel qu'il pouvait exister aujourd'hui dans les pays développés au nouveau modèle tout de suite, c'est une idée qui est intéressante. Et là, on doit y mettre, nous aussi, toute l'implication nécessaire pour permettre à ces pays d'assurer un développement de leur agriculture dans des contraintes qui sont extrêmement fortes là, parce que pour le coup, sur la contrainte en particulier de la ressource en eau, sur l'évolution des sols, il y a des sujets majeurs. Donc, moi, ce que je venais dire ce matin, suite au colloque qu'on avait fait le 18 décembre, et le dire aussi à Mme Robin ici, la France n'est pas du tout à côté de l'enjeu de l'agroécologie. On a été même là, pour le coup, et je pense que M. de Schutter pourra le dire, on est parfaitement dans l'objectif. On le sera aussi dans le cadre, Pascal Canfin me le disait, du développement, et même l'AFD, on va essayer de l'engager dans ce domaine. Je le disais tout de suite pour bien préciser les choses. Donc maintenant, après, bien sûr, on ne fera pas tout de suite. On ne va pas tout révolutionner. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on enclenche un processus. Et la vraie question qui est posée, d'ailleurs, c'est comment, et c'est tout le débat du plan sur l'agroécologie qu'on a mis en œuvre avec les trois volets, hein, la définition des concepts, la diffusion des concepts, et au bout du compte, la mise en œuvre des techniques. C'est ça. Et la diffusion des concepts, c'est ce qu'il y a de plus fort dans la mutation organisée. Mais c'est ce qu'il y a de plus difficile aussi. Parce que il y a à la fois des intérêts, et puis il y a culturellement aussi une idée à faire changer. Et ça, c'est jamais facile à faire. Mais je crois que, pour ce que j'en vois partout à peu près, on a quand même marqué un certain nombre de points, et il faut s'appuyer là-dessus pour pouvoir continuer à progresser. Et c'est ce à quoi je vous invite ce matin. En tout cas, j'aurai de toute façon les conclusions par Joël quand il arrive. Il saura me rattraper ou me rappeler lors des futurs débats à l'Assemblée nationale et en particulier sur la loi d'avenir. Je voulais surtout vous dire que j'attends de toutes ces réunions, de tous ces colloques, eh bien, qu'il y ait une dynamique qui se crée et qu'on puisse derrière cette dynamique créer les éléments qui nous permettront d'assurer cette mutation. Elle est en cours, il faut simplement arriver à la concevoir, à la construire. Et je crois que pour l'agriculture comme pour l'alimentation, il y a, contrairement à ce qui est dit souvent, au contraire, un grand potentiel et de beaux objectifs. Merci.
Merci, Monsieur le Ministre. Olivier, si vous voulez bien prendre...